islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 29 février 2024 sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran lance le satellite de fabrication nationale Parsan dans l'espace. Les chasseurs israéliens lancent des attaques de missiles sur Damas, capitale syrienne. Et Israël cible le Liban avec du phosphore blanc. Le Hezbollah poursuit ses opérations contre l'ennemi sioniste. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran lance le satellite de fabrication nationale Parsan dans l'espace. Le satellite Parsan a été placé avec succès sur l'orbite du Soleil à une altitude de 500 km de la surface de la Terre. Le satellite Parsan est un satellite de recherche conçu, construit, assemblé et testé à l'Institut iranien de recherche spatiale. Il est mis en orbite à bord de la fusée russe Soyouz. Ce satellite de 134 kg fait partie de la série de satellites de recherche et de mesure de l'Institut iranien de recherche spatiale et a été conçu et produit dans le but de servir à l'imagerie fonctionnelle, au développement du marché local des données de mesure ainsi qu'au renouveau et au test des technologies nécessaires aux opérations locales. Le satellite Parsan dispose de 3 caméras d'imagerie et reçoit des informations des ressources terrestres dans 3 bandes spectrales. Infrarouge visible, infrarouge à ondes courtes et infrarouge thermique. Le spectre de couleur et la caméra infrarouge à ondes courtes de ce satellite capturent 95% du territoire iranien en moins de 100 jours. La caméra infrarouge thermique, capable de filmer la nuit, est capable de photographier l'ensemble du territoire iranien en moins de 45 jours. Les chasseurs israéliens ont bombardé mercredi soir la banlieue de Damas avec des missiles ayant été pour la plupart détruits par la défense aérienne de l'armée. Le correspondant d'Al-Mayadin à Damas a rapporté que le régime sioniste avait lancé des attaques de missiles contre le quartier Zeinabia au sud de Damas. Les forces d'occupation israéliennes ont lancé une attaque aérienne depuis les hauteurs du Golan syrien occupé, ciblant plusieurs points de la banlieue de Damas. Deux volées de missiles ont visé le quartier Zeinabia au sud de Damas. Al-Mayadin a précédemment signalé de forts bruits de bombardement dans la même zone. La télévision syrienne a également rapporté que la défense aérienne de l'armée avait répondu mercredi soir aux attaques ennemies près de la capitale Damas. Le Hezbollah libanais a annoncé dans un communiqué avoir ciblé le repère de l'armée du régime sioniste dans le nord de la Palestine occupée. Selon le site web de la chaîne libanaise Al-Manar, le Hezbollah libanais a déclaré ce jeudi 29 février dans un communiqué qu'il avait pris pour cible un lieu de rassemblement des soldats israéliens près de la base Jalal Alam, dans le nord de la Palestine occupée, en tirant des obus mortiers. Les médias liés au régime ont annoncé ce jeudi qu'un nouveau barrage de roquettes avait été tiré depuis le Liban vers la colonie sioniste de Shlomi, dans le nord de la Palestine occupée, et que le bruit d'au moins 5 explosions avait retenti dans la colonie de peuplement sioniste. Le mouvement de résistance libanais a promis que les attaques visant l'armée sioniste se poursuivraient à moins que les sionistes cessent leurs offensives brutales contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. L'attaque d'aujourd'hui du Hezbollah contre le repère des militaires israéliens est survenue alors que les médias libanais ont rapporté les instances raids aériennes de l'armée sioniste déclenchées depuis mercredi soir. Attaque au cours desquelles des bombes au phosphore interdites ont été larguées sur les villes situées dans le sud Liban. Selon les derniers rapports, 2 personnes ont été tuées. Les médias allemands rapportent qu'une frégate de la marine allemande participant à la coalition anti-yéménite en mer Rouge a failli abattre par erreur un drone américain. Un navire de guerre allemand participant à une coalition européenne anti-Yémen en mer Rouge a ouvert le feu par erreur sur un drone américain MQ-9 Reaper, selon des informations. Les médias allemands ont diffusé l'information le lundi 26 février, décrivant l'attaque comme un incident de tir par erreur. Selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, le navire de guerre a tiré 2 missiles sur l'aéronef sans passager, mais les 2 projectiles se sont écrasés dans la mer en raison d'un défaut technique. Le navire de guerre allemand a ouvert le feu après que les efforts visant à identifier un drone inconnu ont échoué, a déclaré le ministre allemand de la Défense, ajoutant que la cible n'avait pas été touchée. L'avion s'est ensuite révélé être un drone de reconnaissance, a-t-il déclaré. Le drone n'était apparemment pas lié à la coalition navale dirigée par les États-Unis qui opère en mer Rouge pour faire face aux opérations yéménites. Le journal Frankfurter Allgemeine a déclaré qu'il était de notoriété publique que des drones de combat américains sont utilisés dans la région et qu'ils n'avaient rien à voir avec l'opération menée par les États-Unis en mer Rouge. Dans un discours prononcé mercredi 28 février, Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas, a appelé les Palestiniens de Cisjordanie occupée à marcher vers la mosquée Al-Aqsa le premier jour du mois sacré du Ramadan. Cela intervient alors que le cabinet israélien d'extrême droite, dirigé par Benjamin Netanyahou, imposerait des restrictions à l'accès à la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Rots, occupée pendant le mois sacré du Ramadan, sous prétexte de dispositifs de sécurité. Le siège de la mosquée Al-Aqsa et le siège de Gaza sont une seule et même chose, a déclaré Haniyeh, ajoutant que le lieu saint devait rester ouvert à tous et que les lieux sacrés seraient défendus par toutes les formes de résistance. La mosquée Al-Aqsa et les autres lieux saints doivent être gérés conformément au droit international et notre peuple défendra ses mosquées, ses églises et ses lieux saints par toutes les formes de résistance, a-t-il noté. Le dirigeant palestinien a également affirmé que la multiplication des attaques israéliennes en Cisjordanie faisait partie d'un plan global visant à déplacer tous les Palestiniens. Plus de 120 entités locales et internationales exigent une enquête indépendante sur le ciblage des journalistes par Israël au Liban. Plus de 120 individus et organisations ont demandé une enquête de l'ONU sur les agressions israéliennes contre des journalistes dans le sud du Liban. L'appel adressé le mercredi 28 février au commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, exprimait son inquiétude face au ciblage délibéré par Israël des journalistes et des professionnels des médias au Liban. La lettre appelle à une enquête pour établir les faits et les circonstances autour des attaques et à ce que les conclusions soient publiées en vue de demander des comptes aux responsables. Figuré parmi les organes signataires, le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, des groupes de défense des droits locaux et régionaux, des législateurs libanais et des médias dont Al Jazeera. Dans la lettre adressée à la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, les signataires ont demandé, sur la base de sa responsabilité d'améliorer la sécurité des journalistes, de lutter contre l'impunité de ceux qui les ciblent et de plaider pour la responsabilisation pour les crimes de guerre apparents commis par Israël au sud du Liban contre les journalistes. Le 21 novembre 2023, les journalistes Al-Mayadin, Farah Omar et Rabi Mahmari ont été tués lors des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Lors d'une autre attaque, le 13 octobre de la même année, le journaliste de Reuters, Issam Abdallah, a été tué et 6 autres personnes ont été blessées, dont 2 journalistes de l'AFP. En décembre, Israël a prétendu que les frappes d'octobre avaient lieu dans une zone de combat actif. Le régime a déclaré de la même manière qu'il réexaminait les attaques. Une enquête de l'AFP sur les frappes d'octobre menée conjointement avec Ervars une ONG qui enquête sur les attaques contre des civils dans des situations de conflit, a révélé qu'il s'agissait d'un obus de char de 120 mm uniquement utilisé par l'armée israélienne dans cette région. Mercredi 28 février, un haut responsable de l'un des ministères européens de la Défense a reconnu que des forces spéciales occidentales étaient officieusement présentes en Ukraine, malgré les allégations de l'OTAN dirigées par les États-Unis, selon lesquelles elle n'avait pas de projet de déploiement de troupes de combat en Ukraine. Tout le monde sait qu'il y a des forces spéciales occidentales en Ukraine, mais personne ne l'a officiellement reconnu, a déclaré au Financial Times le plus haut responsable européen qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. Cela fait suite aux remarques du lundi 26 février du président français Emmanuel Macron qui n'a pas exclu l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Lors d'une conférence presse à Paris, Macron a déclaré aux journalistes qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer des troupes sur le terrain de manière officielle et approuvée. Mais en termes de dynamique, rien ne peut être exclu. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre », a dit Macron. Ces remarques, qui ont déclenché un tollé à l'échelle continentale, interviennent alors que la Russie a mis l'accent sur l'implication de mercenaires étrangers participant au conflit en Ukraine. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Aucun endroit à Gaza n'est sûr, pas même les abris des Nations Unies. L'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a annoncé que 84 écoles et installations de cette agence à Gaza avaient été directement ciblées et endommagées par les frappes de l'armée israélienne depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. L'agence onusienne a ajouté que plus d'1,7 million de déplacés palestiniens avaient trouvé refuge dans ou à proximité de ces installations depuis le début de la guerre génocidaire israélienne. Au moins 400 personnes déplacées ont été tuées dans ces installations ou à proximité et plus de 1300 personnes ont été blessées lors des attaques israéliennes. Aucun endroit à Gaza n'est sûr, pas même les abris des Nations Unies, a écrit l'UNRWA dans un message publié sur le réseau social X. Dans un communiqué, l'UNRWA a indiqué que le régime sioniste a empêché l'acheminement des aides humanitaires, ajoutant que 44% des écoles de l'UNRWA dans la bande de Gaza ont été partiellement ou totalement endommagées à la suite des bombardements israéliens. En ce qui concerne les actions des États-Unis et d'Israël contre cette organisation onusienne, le roi a évoqué la réduction de 50% de l'envoi des aides humanitaires à Gaza par rapport au mois dernier. Cela intervient alors que l'une des plus grandes organisations caritatives pour éradiquer la pauvreté, la faim et l'injustice, Oxfam, a publié mardi un rapport dans lequel il a mis en garde contre la situation catastrophique et la famine dans la bande de Gaza à la suite de la poursuite des crimes israéliens. En outre, Oxfam a déploré la malnutrition galopante et les morts de faim dans l'enclave palestinienne, déclarant que les Gazaouis se tournent vers la consommation d'eau usée et de plantes et l'utilisation d'aliments des animaux pour faire du pain. Le régime israélien a lancé le 7 octobre une offensive contre la bande de Gaza. Il a rendu la situation encore plus désastreuse en imposant un siège complet à Gaza, coupant le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau à plus de 2 millions de Palestiniens. Depuis le début des frappes israéliennes, près de 30 000 personnes ont été tuées en martyrs et plus de 70 000 autres blessés.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, le régime israélien est une véritable source de prolifération des armes de destruction massive, appelant à une mobilisation internationale massive et immédiate pour donc faire face à cette grande menace. Le régime israélien, justement, avait menacé de larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza. Donc, il dénonce également l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'égard de la guerre génocidaire que mène le régime israélien contre la bande de Gaza, c'est-à-dire les Palestiniens. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le ministre iranien des Affaires étrangères considère le régime israélien comme une véritable source de prolifération des armes de destruction massive ADM dans la région, rappelant que ce régime constitue aussi la menace la plus grave qui existe pour l'humanité toute entière. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques le 26 février lors d'une réunion avec des membres de la conférence de désarmement à Genève, en Suisse, où il a appelé à la mobilisation des efforts internationaux contre les menaces posées par le régime israélien à la paix et à la sécurité mondiale. Il est nécessaire que tout l'arsenal nucléaire du régime israélien soit éliminé et que toutes ces installations nucléaires soient placées sous les mécanismes de garantie et de vérification de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a-t-il déclaré. Le ministre iranien a rappelé que l'administration israélienne, dirigée par Benjamin Netanyahou, avait été enhardie par le soutien des États-Unis et de certains pays occidentaux dans la guerre en cours contre les Palestiniens à Gaza. Le régime ayant même menacé d'utiliser des armes nucléaires contre le Hamas, le mouvement de résistance au pouvoir dans le territoire assiégé de Gaza. Ce n'est pas un lapsus de la part d'un ministre du cabinet de Netanyahou qui a recommandé d'utiliser l'option nucléaire pour éliminer le mouvement de libération du Hamas. Netanyahou avait déjà évoqué la nécessité de confronter l'Iran à une véritable menace nucléaire dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2023, a fait noter le plus haut diplomate iranien.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat nos deux invités, en commençant par Aysar Midani, intellectuel, expert franco-syrien des questions internationales. Bonjour, Madame Midani.
Bonjour, ravi d'être avec vous. Je vous remercie de votre invitation. Bonjour, Monsieur Develay, et à tous.
Et un grand bonjour à Arnaud Develay, maître et juriste international. Bonjour, Monsieur Develay.
Oui, bonjour à vous et bonjour, Docteur Midani.
Eh bien voilà, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer donc le débat d'aujourd'hui en s'adressant donc à Aysar Midani qui est avec nous depuis la France. Alors, le régime israélien qui menace de larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza est une menace ou bien l'Iran qui a des activités nucléaires à des fins uniquement pacifiques? Quel est à votre avis?
Écoutez, le régime fantoche d'Israël est un danger public en fait pour l'ensemble des pays de la région. Toute façon, de toute son histoire, il n'a fait que mener des guerres contre les pays voisins, des guerres contre la Palestine, contre le Liban, contre la Syrie, contre l'Égypte, contre la Jordanie. Et à chaque fois, ça s'est soldé par l'appropriation illégale de terrain par la force, ce qui est une entrave et une violation de la loi internationale, d'une part. D'autre part, il n'arrête pas de. Il faut savoir quand même qu'il a des têtes nucléaires, plus de 300 têtes nucléaires, chose qui a été dévoilée par leur expert nucléaire qui, à la suite de ça, a été effectivement emprisonné pendant 20 ans. Il ne déclare pas. C'est quand même un pays qui est soutenu à bout de bras par les États-Unis, qui lui fournit, et les pays de l'OTAN, qui lui fournissent des armes de destruction massive, c'est le cas de le dire, des munitions, des bombes de plusieurs tonnes, de beaucoup de tonnage qu'on ne voit que dans les grosses guerres ou dans les dans les guerres ou que les Américains larguent. D'ailleurs, les Américains commencent pour faire une destruction aussi d'un pays, la destruction d'un pays entièrement. En plus, ajouter ceci, donc à tout cela, ajouter à un gouvernement, un ensemble de gouverneurs qui, depuis le début d'ailleurs, ont été des véritables fauteurs de troubles et de véritables génocidaires, hein, quand même. Il faut savoir que Israël a commencé sur la base d'un génocide qui a été perpétré contre les Palestiniens dès le départ à Khan Younes et qui a provoqué l'exode de 700 000 Palestiniens du pays dans les pays voisins, et que ce pays n'a jamais, cette entité fantoche, elle n'a pas cessé d'agresser aussi tous ses voisins. Elle n'a pas cessé d'agresser les Palestiniens, toujours dans l'esprit de d'un exode terrible et qui ferait qu'ils s'approprient leur terre, leur pays, même leur culture et même leur histoire. Donc c'est une histoire qui, qui est très cohérente avec sa pratique actuelle et qui continue au vu et au su du monde entier, parce qu'il est soutenu par les grands pays impérialistes comme les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Allemagne et aussi tous les pays de l'OTAN.
Absolument. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Arnaud Develet, juriste international. Alors, Aïssa Hamidani est vraisemblablement en colère. Elle a raison de l'être donc à l'égard de cette guerre génocidaire que mène le régime israélien contre la bande de Gaza, c'est-à-dire les Palestiniens. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Arnaud Develet, a dit que le régime israélien était une véritable source de prolifération des armes de destruction massive. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, absolument. D'autant plus que dans le cas de l'entité sioniste, cette dernière pratique ce qu'elle, jusqu'à très récemment, appelait la doctrine d'ambiguïté stratégique, à savoir qu'il était hors de question d'admettre qu'elle possédait ces armes, mais qu'en même temps, elle ne niait pas qu'elle les avait. Avec les déclarations récentes d'un des membres du cabinet de Netanyahou, on sait maintenant de manière certaine que Israël possède ses armes. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'elle refuse de se plier au droit international en la matière, à savoir le régime de non-prolifération. Et partant de là, elle refuse aussi à tout pays dans la région d'établir la parité. Et elle se livre à des opérations qu'on pourrait rappeler, à évoquer comme faisant de la projection quelque part, puisqu'elle impute à l'Iran une volonté belliciste quant à l'exploitation de l'uranium enrichi. L'Iran n'a jamais caché son désir de diversifier ses sources énergétiques et, ce faisant, a développé des centrales nucléaires à but civil. Elle a signé le pacte de non-prolifération pour essayer de montrer sa bonne foi. L'Iran s'est engagé dans des pourparlers qui ont duré plusieurs années et qui ont culminé avec l'accord sur le nucléaire de 2015. Accord qui a été immédiatement bafoué 3 ans plus tard par l'administration Trump, qui a unilatéralement s'est retiré donc de l'accord, et ce faisant a suspendu les sanctions iniques contre l'Iran. On impute maintenant à l'Iran sa volonté de développer un engin nucléaire dans les 6 mois. C'est ce que Netanyahou passe son temps à dire à l'Assemblée générale des Nations Unies depuis au moins une quinzaine d'années maintenant, en disant à chaque fois que l'Iran est sur le point de le faire, que ça va prendre 6 mois, mais qu'il se trouve que tous les rapports des agences de renseignement américaines sur le sujet, tous les 4 ans, précisent que ce n'est absolument pas le cas. D'autant plus que l'ayatollah Ruhollah Khomeini a lui-même, à l'époque, formulé une fatwa considérant que l'usage même de l'arme nucléaire était contraire aux principes de l'islam. Mais les faits ne semblent pas dissuader l'entité sioniste qui agite constamment cette menace fantôme, alors qu'elle pratique elle-même un terrorisme d'État qui, avec le fait qu'elle possède des armes nucléaires, fait peser un danger certain sur la région et partant de là sur le monde, puisque, ainsi que Mme Milani l'a souligné, la plupart des têtes nucléaires dont dispose l'entité sioniste, et ça on le sait de la part d'un de leurs experts, alors déjà Mordecai Vanunu, qui lui-même avait révélé l'existence du projet, enfin, du projet nucléaire en 86, il avait été condamné à 20 ans de réclusion où il était en isolement essentiellement. On lui refuse tous les ans l'opportunité de quitter le pays alors qu'il a purgé sa peine. Mais un autre expert, M. Van Creveld, qui travaillait, je crois, pour le centre de recherche de Herzliya, a lui-même déclaré que, en fait, les têtes nucléaires étaient déjà calibrées pour non seulement détruire les capitales de la région de l'Asie occidentale, mais aussi de l'Europe. Ce qui fait que, quelque part, la France, en permettant à l'entité sioniste d'obtenir l'arme nucléaire, s'est elle-même, parmi d'autres, mise dans une situation où elle risque de récolter les fruits de sa politique mal avisée des années 50. Donc, comme disait à l'époque le général Moshe Dayan, il considérait que le monde devait percevoir l'entité sioniste comme un chien fou, et ce faisant, être plus ou moins disposé à faire ce que Tel Aviv leur ordonnait de faire.
Absolument.
Donc c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve maintenant.
Absolument. Aïssar Milani, donc, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, le régime israélien est la plus grande menace pour l'humanité entière. À quel point il faudra prendre au sérieux donc, cette menace qui vont larguer une bombe dans la bande de Gaza, par exemple?
Je salue effectivement le ministre des Affaires étrangères iranien pour avoir effectivement parlé de cette vérité, je dirais, et de manière ouverte et alarmant les pays du monde à prendre ceci au sérieux. Ça d'une part. D'autre part, je pense que c'est effectivement à tous les pays de la région et du monde à prendre effectivement cette menace au sérieux, parce que les dirigeants, on le voit très bien, les dirigeants d'Israël sont fous et ils sont capables du pire. Donc ils sont capables d'une destruction du monde entier, et pour sauvegarder leur pouvoir, pour sauvegarder leur... je ne sais pas quoi, en fait, leur ego, je dirais, et donc c'est une véritable menace pour le monde entier. On le voit déjà, c'est une menace pour tous les pays de la région, effectivement, et donc il faut procéder effectivement immédiatement au désarmement d'Israël, ce qui est aujourd'hui dirigé par un régime nazi, qui est aussi fou, si plus, sinon plus, que le régime nazi hitlérien. Et il est aussi donc important de mettre tous les efforts pour désarmer cet État belliqueux.
Justement, Aïssar Midani, le ministre iranien des Affaires étrangères, rappelait à une mobilisation internationale massive et immédiate contre le régime israélien, donc démilitariser donc ce régime qui possède plus de 300 ogives nucléaires. Mais comment il faudra le faire, à votre avis, Aïssar Midani?
À mon avis, il faut quand même que les instances déjà aujourd'hui qui s'occupent du contrôle du nucléaire, du désarmement et puis du nouveau monde, je dirais, d'un monde sans menace ou sans hégémonisme, que en fait tous les pays s'y mettent parce que c'est synonyme de la domination hégémoniste américaine, mais avec la folie israélienne en plus. Donc je crois que toutes les instances internationales devraient s'y mettre et tous les pays devraient appeler effectivement à exercer une grande pression sur l'AIEA, déjà, cet organisme qui contrôle les présences des armes atomiques, pour œuvrer à désarmer ce pays. Et puis surtout, quand même, prendre acte de toute l'histoire des agressions israéliennes contre les peuples voisins et tous les peuples qu'ils ont agressés, pour mener effectivement des procès. Aujourd'hui, le procès, je dirais, qui est mené à la Cour internationale de justice doit être un point d'appui crucial dans lequel d'ailleurs tous les témoignages ont été accablants pour cet État fantoche. Il faudra que ce soit effectivement une pierre angulaire de la mobilisation contre, pour désarmer ce pays.
Absolument. Maître Develet, nous sommes face, bien sûr, à une inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est dénoncé donc partout dans le monde avec le veto donc américain. À votre avis, avec cette inaction, est-ce que cette mobilisation internationale est possible?
Moi, je pense que c'est une question qui est intimement liée à ce sentiment d'impunité que l'antitétionniste bénéficie au travers du veto américain. Et donc, cela passe par un changement de politique à Washington et une prise de conscience du danger que représentent les dirigeants sionistes. On le sait, de par leurs déclarations et de par même leur doctrine nucléaire. On se rappelle qu'en 1973, par exemple, alors que sur le plan conventionnel, la guerre de 1973 était très mal engagée, qu'à l'époque, ils avaient fait en sorte que leur silo soit visible du ciel. Et en cela, c'était déjà une forme de chantage nucléaire qui avait mené à des pourparlers immédiats. Donc ce chantage doit cesser, mais pour cela, il faut que l'entité sioniste soit forcée de signer le régime de non-prolifération, ce qui permettrait à l'Agence internationale atomique de venir inspecter les sites dans le Negev, à Dimona, et partant de là, de procéder à des recommandations. Mais je pense que cela ne sera pas possible tant que les fonds continueront à affluer dans l'entité sioniste essentiellement. Donc c'est une question avant tout d'argent et jusqu'au moment où les États-Unis ne seront plus en mesure de payer les 3 ou 4 milliards de dollars par an et de subventionner l'économie israélienne, je ne pense pas qu'il y aura malheureusement d'intérêt pour que l'Israélien le fasse de même. Donc il faudra à un moment donné acter, si je puis dire, l'écroulement interne de l'économie américaine, son incapacité à imprimer de l'argent pour financer tout un tas d'activités néfastes. Ça ne se limite pas juste au soutien à l'entité sioniste, mais aussi au fonctionnement de leur base tout autour du monde. Et dans un contexte qui verra ensuite leur soutien principal ne plus être en mesure de les soutenir, alors on pourra commencer à entrevoir une fenêtre d'opportunité et les forcer à faire ce que jusqu'à présent ils se refusent à faire.
Arnaud Develet, la volonté internationale, surtout chez les jeunes, existe bien sûr, mais la volonté chez les Américains, le gouvernement américain et certains pays européens pour leur soutien au régime israélien continue, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, c'est malheureusement un peu toujours la même configuration. Il y a une différence entre les peuples et leurs dirigeants. Et les dirigeants occidentaux ont plus ou moins acté leur soutien, je cite, indéfectible à l'entité sioniste. Et on peut penser que la découverte de ces gisements de gaz au large de Gaza est une grande, comment dirais-je, une des raisons principales derrière leur soutien au génocide actuel, puisque pour des raisons plus ou moins liées à la situation en Ukraine et avec la Fédération de Russie, ils ont besoin de se ménager une alternative en ce qui concerne l'approvisionnement du gaz. Donc c'est quelque chose aussi qu'on doit prendre en compte et qui est tout est lié quelque part. Ce qui se passe en Ukraine est intimement lié à ce qui se passe à Gaza. Et donc je pense qu'il faut avoir une approche globale sur une résolution de la situation en faisant abstraction de certains théâtres d'opération. Tout est lié, que ce soit ce qui se passe dans les régions du Donbass jusqu'à ce qui se passe dans le détroit d'Aden ou le détroit de Bab el-Mandeb.
Tout à fait.
C'est un même front continu.
Absolument. Aïssa Armidani, est-ce que vous voulez bien conclure le débat d'aujourd'hui, je vous prie?
Oui, moi je pense quand même qu'il faut faire effectivement un front mondial contre la prolifération des armes nucléaires, d'une part, et puis d'autre part, effectivement, obliger au désarmement d'Israël et aussi au désarmement des toutes les forces belliqueuses comme ça dans le monde. Mais pour cela, il faut aussi qu'il y ait les grands pays comme pas seulement l'Iran, mais surtout comme la Chine et la Russie qui se joignent à cette volonté de désarmement. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que hier, on fait des réunions sur le désarmement et on accentue l'armement pour préparer une guerre mondiale. C'est quand même paradoxal de l'attitude de l'ensemble de ces pays. Et je crois que ce sont les peuples qui doivent mettre la pression sur leur gouvernement pour cela.
Et surtout la jeunesse, Aïssa Armidani, n'est-ce pas?
Oui, la jeunesse, mais dans la jeunesse, il y a aussi des mouvements néo-nazis, n'oublions pas. Donc, c'est en fait la jeunesse qui refuse effectivement l'hégémonisme de certains pays contre d'autres, qui reconnaît la souveraineté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et surtout de leurs richesses. Surtout ça. Et cette jeunesse, je crois qu'elle est en train de grossir un peu dans le monde, mais il y a aussi une jeunesse fascisante qui monte aussi, surtout dans les pays européens, on le voit, favorisée par un discours raciste, fasciste, etc., anti-immigrés, anti-islam. Donc, qu'il ne faut pas perdre de vue. Hein. C'est important de voir cette manière dont les belliqueux préparent aussi l'avenir.
Oui, Maître Arnaud de Volley, votre conclusion, je vous prie.
Bah, écoutez, je m'inscrirai dans les propos de Dr Midani. Effectivement, c'est la jeunesse qui doit maintenant remplir, si je puis dire, ses obligations. Si elle veut pouvoir préserver l'avenir, il va falloir qu'elle se mobilise et qu'elle arrête de mener une vie d'hédonisme et de consommation, qu'elle s'informe davantage sur les enjeux de notre époque, parce qu'effectivement, dans la trajectoire actuelle, si rien n'est fait, on court à la catastrophe.
Oui. Nous l'espérons pas, en tout cas. Bien, Maître Arnaud Develay, juriste international, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à Aïssa Armidani qui nous a accompagnés depuis Paris, intellectuel, expert de questions internationales. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans notre dernier programme, nous avons terminé la lecture et l'exégèse des versets de la sourate 49 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Hujarat, les appartements. À partir de ce programme, nous commençons la lecture et l'exégèse des versets du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. La Sourate 50 compte 45 versets. La Sainte Sourate Qaf a été révélée au noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, à la Mecque avant l'Hégire. La résurrection et l'émerveillement des incroyants de la résurrection des morts, la prophétie, le monothéisme et la puissance divine sont des questions soulevées dans cette sourate. Le verset 16, qui considère que Dieu est plus près de l'homme que sa veine jugulaire, est l'un des versets les plus célèbres de cette sourate. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 1 à 8 du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 1 et 2 de la Sainte Sourate Qaf, puis nous en donnerons la traduction.
Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'an al Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qaf, par le Coran glorieux. Mais ils s'étonnent que l'un des leurs leur vint comme avertisseur. Et les mécréants dirent, ceci est une chose étonnante. À l'instar de 28 autres sourates du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf commence par une lettre de l'alphabet arabe. Selon les exégètes du Noble Coran, ces lettres de l'alphabet à la tête des sourates coraniques sont des codes secrets. Et dans la plupart des cas, ces lettres sont suivies par le nom du Coran ou une allusion directe au livre céleste et à sa révélation au noble messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Les commentateurs du livre saint estiment souvent que ces lettres de l'alphabet sont des codes secrets qui font allusion au fait que le Saint-Coran est le miracle le plus somptueux et le plus parfait que le vénéré prophète de l'Islam a apporté aux humains grâce à la volonté du Seigneur. D'autant plus que la répétition des lettres de l'alphabet arabe à la tête de plusieurs sourates coraniques est également un défi lancé à l'adresse de ceux qui nie le caractère miraculeux du Coran, pour qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais capables de faire un livre semblable au Coran, qui est la parole du Seigneur, révélée à son plus noble messager. Les mécréants et les païens s'étonnaient de voir que l'un des leurs prétendait être un messager élu par le Seigneur pour leur apporter des avertissements au sujet de la vie après la mort et la résurrection. Or, le noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, n'était pas le premier à être élu comme prophète et messager du Seigneur. Ces versets nous apprennent que le fait que le messager était élu parmi les humains était une tradition divine sage et logique, et que cette origine humaine était en réalité un point fort de la mission prophétique des messagers. Tandis que les mécréants le considéraient comme leur point faible et se raillaient d'eux d'être un humain ordinaire prétendant être élu par le Seigneur. Voici maintenant les versets 3 à 5 de la Sainte Sourate Qaf.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ.
Quoi, quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue. Les voilà donc dans une situation confuse. Les gens qui niaient la résurrection n'avaient aucun argument solide pour appuyer leurs prétentions. Leur question éternelle était celle-ci. Comment les particules du corps d'un homme devenu poussière après la mort pourraient-ils se réunir pour reprendre vie? Pour répondre à cette question, le Saint-Coran dit que Dieu le Très-Haut connaît toutes les évolutions de la matière et qu'il est parfaitement capable de réunir les particules du corps de chaque individu au jour de la résurrection. Ces versets nous apprennent que le Coran évoque parfois les dires et les points de vue des mécréants avant d'apporter sa réponse à leurs prétentions. Le monde de la création est géré par la sagesse divine. La mécréance est à l'origine des stress et des angoisses, tandis que la foi en Dieu est la source de la quiétude et de la sérénité. Écoutons enfin les versets 6 à 8 de la sourate 50 du noble Coran.
أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes. Et nous y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Dans la vision coranique, le fait de nier la résurrection et la vie éternelle dans l'au-delà est le résultat d'un doute par rapport à la sagesse et au pouvoir infini du Seigneur. Le Saint-Coran souligne que pour connaître le pouvoir et la sagesse infinie de Dieu le Très-Haut, il suffirait de lever la tête et regarder les corps célestes. En effet, le Coran appelle les gens à contempler l'univers de la création pour mieux connaître la sagesse et le pouvoir du Créateur. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí te harán la voz de